On voulait donc s'arrêter ce soir un instant sur les mots de Vladimir Poutine. C'était il y a une heure environ, il est revenu sur l'interception d'un pétrolier au large des côtes françaises, pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe. Cette interception française est une piraterie, dit-il. On l'écoute.
Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres, sans aucun fondement probablement. Il cherchait des cargaisons militaires comme les UAV ou d'autres articles. Il n'en avait aucun et ne pouvait en avoir. Et le pétrolier a navigué sous le pavillon d'un tiers pays. Et il y avait un équipage international, je ne suis pas sûr. Si cela était lié à la Russie, ceci est arrivé. Mais est-ce si important pour la France? Eh bien, cela dépend. Compte tenu de la situation politique intérieure très difficile des Français, la direction politique ne peut d'aucune autre manière détourner l'attention des gens des défis difficiles à résoudre à l'intérieur de la République. Ils veulent déplacer l'attention vers la frontière et inciter différents pays comme la Russie et nous provoquent afin que nous agissions activement. Et disions au peuple français, rejoignez-moi et unissez-vous autour de moi. Je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. Et en réalité, c'est l'essentiel.
Je crois que vous avez été trop aimable envers le président français.
Je sais que je le fais avec plaisir. Nous avons une relation de travail strictement professionnelle. Mais ce qui se passe en ce moment est exactement ce que je vous ai dit. Je n'en doute pas. Je le connais bien.
Alors, il dit beaucoup de choses dans cette intervention, mais d'abord, si on s'arrête sur ce fameux pétrolier, il dit donc que c'est une piraterie, que cette interception n'a aucun fondement, qu'on cherchait des marchandises militaires, des drones, mais qu'il n'y a rien de tout ça, et qu'il ne sait pas dans quelle mesure tout ça est lié à la Russie. Est-ce qu'il existe encore, Ulysse Gosset, un doute qui puisse nous faire penser que ce pétrolier n'est pas russe?
Alors, le pétrolier n'est pas russe. Il est affrété par une compagnie des îles Seychelles, mais il est...
Qu'il n'appartient pas à la flotte russe.
Il est affrété pour transporter du pétrole russe qui va être raffiné en Inde, et c'est une façon de contourner l'embargo dont est victime la Russie. Ce qui est intéressant ce soir avec Vladimir Poutine, c'est que, d'abord, il compare...
Mais ma question, pardon, c'était de dire, est-ce que ce pétrolier était lié directement à la Russie? Est-ce qu'il y a encore un doute là-dessus?
Ah mais non, il n'y a pas de doute. On a la carte de son déplacement, il n'y a aucun doute. Et évidemment, Vladimir Poutine fait semblant de l'ignorer et il parle d'actes de piraterie. C'est presque un aveu de culpabilité.
Oui,
c'est
ça, à partir du moment où...
En fait, si vous voulez. Mais on voit, moi je trouve ça intéressant de voir le chef du Kremlin s'attarder sur cet incident, entre guillemets. S'il n'en tenait pas compte et s'il pensait que c'était complètement dérisoire, il n'en parlerait pas ainsi. Mmh. Et là, il le transforme en un face-à-face avec Emmanuel Macron qu'il compare à Napoléon. C'est lui faire beaucoup d'honneur, lui faire marquer une journaliste russe. Mais c'est assez intéressant. Mais le plus important, c'est que ce soir... Poutine dénonce ce qu'il appelle la militarisation de l'Europe. Si on reprend cet argument-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement l'Europe se défend et elle prend les moyens de sa défense. C'est-à-dire que elle ne dramatise pas, mais elle se prépare et elle réagit de façon très calme, mais en disant ça suffit. Les drones, ça suffit. S'il y en a, comme le dit le chancelier allemand, comme le dit le président français, comme le dit la première ministre du Danemark, eh bien, on est capable de les abattre. On n'acceptera pas des violations de nos territoires. Et sur les bateaux fantômes, on a bien compris qu'ils violaient finalement l'embargo qui a été unanimement voté par les Européens. 18 paquets de sanctions, bientôt un 19e. Et dans ces paquets de sanctions, il y a plus de 400 bateaux qui sont identifiés et qui transportent du pétrole pour contourner l'embargo. Ça suffit. Et donc, s'il y a effectivement un cargo... peut-être pas russe, mais affrété par la Russie avec un capitaine chinois, remarquez que le symbole est fort, eh bien...
Qui sera jugé en février prochain.
On aura le droit d'entrave, c'est ce qu'a dit le président. Le droit d'entrave, ça veut dire on empêchera finalement, ce trafic de pétrole de se poursuivre à chaque fois qu'on le pourra.
Et comment? Comme ça a été mené là, Didier François, en fait, c'est-à-dire en interceptant, en envoyant la marine?
Je suis totalement d'accord avec ce que vient d'Urilis. Ce qui est génial, c'est que, en fait, c'est un aveu de Vladimir Poutine sur le fait qu'il a été touché, au portefeuille, ce qui l'agace, parce que quand même, la flotte fantôme, c'est 40% de son économie de guerre et c'est 70% de son pétrole. Or, grosso modo, la Russie ne produit que du pétrole. Enfin, on n'a pas de téléphone
et
russe.
Et du gaz.
Enfin bon, aucun d'entre nous n'a acheté une voiture russe récemment. Enfin, je veux dire, ça se saurait. Donc, on voit bien que c'est fondamental pour lui. Et surtout, ce qui l'agace, c'est qu'on réagit. C'est que jusqu'à présent, il pensait qu'à chaque fois qu'ils allaient hausser le ton et nous faire peur, on allait ne rien faire.
Alors,
en fait, ce qu'on a fait, c'est simple.
Jusque-là, on faisait quoi? On réagissait pas?
Pas trop.
Parce qu'ils ont toujours
en fait,
été là.
Il y en a 15 par jour qui passent, donc fantôme. La question n'est pas là. Mais là, en fait, on s'est dit, en fait, vous voyez bien, la bonne comparaison, c'est Al Capone. On sait bien que c'est un criminel, on peut pas le choper pour avoir tué tout ce qu'il a tué. Eh ben on va le taper sur un truc qui est là pour le coup, et le droit, et qui est sa déclaration d'impôt qu'il a trafiqué. Et là, il a trafiqué avec un bateau, qui est évidemment un bateau de la flotte russe, puisque depuis 2024, cette même coque, qui a quand même eu 5 noms différents et 11 changements de fanion, transporte de manière illégale du pétrole depuis Primorsk, où il vient de le machin, normalement jusqu'à l'Inde, ou à la Chine, ou ailleurs. Donc, et ça, sous un faux pavillon. Et là, il était sous faux pavillon. Donc, article 110 du droit international, le pirate, c'est lui, puisque en fait, il n'a pas un vrai pavillon. Et c'est pas du tout les Français qui ont fait de la piraterie. Au contraire, ils font respecter le droit international et les règles du. Et donc, interception et entrave. En plus, on envoie poliment un navire de guerre lui dire, dis donc, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Parce qu'il est en train de faire des tours dans l'eau, en face de Saint-Nazaire, qui pour nous est un peu stratégique, et sur un... Donc, on lui a dit, écoutez, identifiez-vous. Et là, d'un seul coup, l'identification, ça marchait pas, refus d'obtempérer. On applique le droit international, on intervient dans les eaux internationales, au nom des cadres de l'ONU, de l'article 110, et là... Puisque ils voulaient pas obtempérer, on envoie les commandos marines qui montent à bord, qui permettent aux gendarmes de monter et de faire ce qu'on appelle une visite, un droit de visite. Sur la base du droit de visite, où on constate que les documents ne sont pas bons, eh ben, le parquet, de manière, totalement légale, dit, on poursuit la visite, on interpelle le commandant et son adjoint, qui sont déférés devant le parquet de Brest, qui décident qu'il y a eu refus d'obtempérer, donc il y aura procès le 23 février 2026, les investigations se poursuivent, et si on se rend compte que, à bord, il y a des fautes de sécurité, des choses qui ne sont pas réglées, ou que le pavillon, comme on l'a constaté, était pas bien, eh ben, on peut même saisir et le bateau, et donc, voilà, en fait, il a voulu jouer sur, en dessous du seuil, Poutine. Et on est en train de lui répondre en dessous du seuil. C'est ça qui l'agace. Donc il essaie de nous faire peur maintenant. Voilà.
Lieutenant-colonel Arbatier, donc c'est la bonne réponse finalement. On joue à niveau égal.
Le souci, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire du pétrolier? On va le relâcher après.
C'est pas sûr.
En fait, sinon, ce sera
vous
un acte
c'est
de
pas
piraterie.
Sûr. Non, c'est pas
quand
sûr.
Vous regardez le dictionnaire, en termes de juridique, la piraterie, c'est quand vous emparez de marchandises. Les marchandises appartenaient-elles à la France? Non.
Si c'est sur embargo international.
Non, mais ça c'est.
Bah si. C'est le droit.
C'est un bateau fantôme.
Un bateau fantôme. On capture un fantôme. Moi, ça me fait penser à l'acte de l'Altmark, le 23 février 1940, quelques mois avant l'attaque de la Norvège par les Allemands, quand les Britanniques, avec leurs destroyers, ont pris un navire allemand qui avait pris d'ailleurs des naufragés anglais. Ça avait fait une crise un peu comme ça avec l'Allemagne nazie. Hein. C'était un peu. On était en guerre là pour le coup. Mmh. Là, on est en confrontation. Confrontation. Là, c'est pareil, les gens de l'Altmark, ils ont été mis en prisonnier en Angleterre, et puis quelques mois plus tard, c'était la guerre. Donc, si vous voulez, là, moi, je pense qu'on est dans un seuil intermédiaire, la confrontation, qui n'a rien de juridique, c'est ni la paix, ni la guerre.
Et qu'on a franchi un cap, là, ces derniers jours.
Oui, bien sûr.
Avec cet épisode-là, spécifiquement.
On a envoyé un signal très clair à la Russie. On ne peut pas laisser faire ce trafic de pétrole qui continue aux yeux de tous avec cette flotte de bateaux fantômes.
Pétrole qui est supposé être exporté vers qui?
Alors là, en l'occurrence, c'est en direction de l'Inde, mais ça peut aller également en Chine ou en Turquie. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que Poutine continue à vendre son pétrole et à financer les forces de guerre. Donc, c'est là où est... Et d'ailleurs, n'oublions pas une chose, on assiste depuis quelques temps à un changement sur la vision qu'on a de la guerre en Ukraine.
C'est ça.
On voit Donald Trump qui dit « Poutine est un tigre de papier ».
Il lui a répondu, d'ailleurs, ce soir.
Il a répondu, mais le fait que Trump parle d'un tigre de papier avec quelqu'un avec qui il était censé faire la paix, ça en dit long. Donc Poutine ne réussit pas à vaincre l'Ukraine, finalement. Et aujourd'hui, les Européens résistent, se mobilisent. C'est ça qui, finalement, est le vrai changement. Bien entendu, ça prendra du temps et il faudra, évidemment, se réarmer, etc. Quand Poutine parle de militarisation de l'Europe, ça veut dire que l'Europe a enfin pris les moyens ou a décidé de prendre les moyens d'assurer sa sécurité avec ou sans les Américains.
Alors, je voulais qu'on s'arrête quand même sur cette flotte fantôme russe dont on parle depuis plusieurs heures. Sami Sfaxi, c'est en quelque sorte l'arme secrète donc de Vladimir Poutine. C'est quoi concrètement ?
Oui, mais ce n'est pas un modus operandi qui appartient uniquement à la Russie. Par exemple, on trouve des flottes fantômes également chez les Iraniens, chez les Coréens, notamment dans la Corée du Nord, pour tout simplement écouler le pétrole et contourner les sanctions internationales. Mais si on se concentre véritablement sur la flotte fantôme russe, l'Union européenne a un détail très précis. 444 navires. Ils sont répertoriés, on les connaît. D'ailleurs, ils sont gigantesques. Hein. Celui de Saint-Nazaire, il mesure 244 mètres de long. Donc forcément, ça ne passe pas inaperçu. Ils naviguent bien sûr dans les eaux internationales. Ils coupent généralement d'ailleurs leurs transpondeurs pour complexifier un petit peu, si vous voulez, leur identification. Ils changent de pavillon plusieurs fois. Celui qui a été intercepté, il a changé trois fois de nom, plusieurs fois de pavillon depuis le 20 septembre, donc en l'espace de 10 jours seulement. Et aujourd'hui, ce n'est pas qu'un message. C'est un, comme le disait également Didier Ulysse, c'est un poids économique extrêmement important. Didier parlait de 70% du pétrole russe qui était écoulé, mais le président français a donné cet autre chiffre. C'est 30 à 40% de l'effort de guerre russe en Ukraine. Donc c'est véritablement un coup économique qui leur est porté. Et moi, quand je lis ça, ça me fait penser à vous savez, ces soldats un peu de l'ombre russe en 2014 qui étaient lors de la début de la guerre en Ukraine sans aucune identité. Voilà, les petits hommes verts absolument qui n'avaient aucun écusson, aucune identité, c'est un peu le même procédé.
Et donc on comprend à Dina Revol l'agacement ou la colère froide, exactement, je cherchais le mot Didier, de Vladimir Poutine ce soir. On s'en prend directement à ses intérêts militaires, à ses intérêts économiques.
Écoutez, moi je suis née en Roumanie, ça me rappelle Nicolae Ceaușescu en fait. Le wording, ce que Vladimir Poutine déclare, en fait ça me rappelle vraiment les derniers mots de Nicolae Ceaușescu. C'est exactement ça, c'est Vladimir Poutine en réalité il est acculé aujourd'hui. Parce que le fonds souverain russe qu'il avait constitué depuis 2014 pour envahir l'Ukraine est épuisé. Donc maintenant, justement, il a besoin de sa flotte fantôme pour nourrir encore son effort de guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, la France a décidé de riposter et effectivement, ce qu'il fallait faire, et peut-être qu'il fallait le faire depuis bien longtemps, parce que le pétrole est sous sanction depuis le mois de mars 2022, donc ça a été dans le deuxième paquet de sanctions, donc c'est très, très, très vite, on a sanctionné le pétrole après le massacre de Boutcha. Donc, mais on a mis du temps, en fait, à prendre ce type de mesures là. Et c'est essentiel, puisque sans l'effort pétrolier, Vladimir Poutine ne peut plus financer la guerre en Ukraine. Et je rappelle par ailleurs que Donald Trump a mis des sanctions secondaires sur l'Inde. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que l'Inde et la Chine, ce sont les principaux acheteurs
de pétrole russe. Donc ça impacte aussi la Russie. Est-ce que réellement Vladimir Poutine, Paul Gogo, est acculé? J'ai l'impression que ça fait quand même des mois, des années qu'on parle d'un Vladimir Poutine coincé parce qu'on lui impose des sanctions, etc. Pourtant, on a quand même l'impression que ça va pas trop trop mal pour lui.
Non, en fait, ça va. Mais c'est un peu toujours ça avec les dictateurs, ça va jusqu'au moment où ça va plus du tout. En fait, donc c'est un peu la difficulté pour. Enfin, c'est la difficulté pour nous d'expliquer les choses parce qu'on est dans la nuance et voilà. Et puis, il peut se passer n'importe quoi parce que là, par exemple, on parle du pétrole, de son usage pour financer la guerre. Mais il faut pas oublier que le pétrole sert aussi à financer le système Poutine, tous ces gens qui sont autour de lui et qui lui permettent de rester au pouvoir. Et que ces gens-là, s'ils s'enrichissent un petit peu moins, ce qui est déjà un peu le cas en plus depuis quelques temps, et à un moment, ils vont peut-être être tentés de retourner leur veste.
Mais jusque-là, est-ce que c'est le cas?
Non, là, alors pour être honnête, là, pour le moment, il y a plutôt une bien sûr. Voilà, les rangs se resserrent. On est derrière Vladimir Poutine parce que finalement, il y a l'autre chose, c'est-à-dire que si le système s'effondre, eux s'effondrent aussi, ils perdent tout. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre instable, mais pour l'instant se maintient. Ensuite, sur Vladimir Poutine fragile, c'est vrai que son alliance avec la Chine, il en a encore parlé aussi dans le cadre de cette même intervention, devient plus concrète, plus visible. Alors, elle aussi peut être très fragile et repose parfois sur pas tant de choses que ce qu'on peut dire, mais elle existe et il reçoit énormément de représentants internationaux à Moscou, Vladimir Poutine. Il est très loin, pour le coup, d'être le président isolé qu'on a pu décrire ces dernières années. Et ça, c'est une réalité aussi.
Et la situation économique russe, qu'en est-il?
Alors d'abord, il faut dire que, précisément, Poutine n'est pas acculé. Mais il ne gagne pas. Il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. L'objectif, c'était la conquête de l'Ukraine, c'était la vassalisation de l'Ukraine, c'était la chute de Volodymyr Zelensky. Il a échoué et sa stratégie ne porte pas ses fruits. Il y avait une offensive d'été qui était prévue, qui devait effectivement permettre à l'armée russe de progresser, de prendre des villes dans le Donbass, et ça n'a pas été le cas. Donc il est, je dirais pas mis en échec, mais en tout cas, le front est gelé. Et pour Poutine, c'est une forme d'échec. De là à parler d'un dictateur acculé, non, parce que effectivement, même si la Russie est victime de sanctions, elle est objectivement soutenue par la Chine, par les pays qui lui vendent, qui lui achètent son pétrole. Et souvenez-vous de cette image très forte à Pékin cet été où il y a eu un défilé militaire où on a vu Poutine, le Coréen du Nord,
Kim Jong-un à ses côtés avec Xi Jinping.
Et avec Xi Jinping, il y a quand même une alliance de trois pays qui font face à l'adversité. Alors, on est dans un affrontement, on est dans une confrontation, d'ailleurs, comme le dit le président de la République, et qui passe par des affrontements militaires en Ukraine, c'est la guerre, la vraie, la dure, mais aussi une guerre hybride. Et c'est l'Europe qui est en première ligne dans cette guerre hybride, et la France en particulier. Et c'est cette guerre hybride que les Européens veulent gagner, c'est-à-dire empêcher Poutine de déstabiliser les sociétés, d'envoyer des drones pour faire paniquer les populations, pour éventuellement empêcher les avions de décoller, etc. Oui,
parce qu'on rappelle qu'on soupçonne d'ailleurs ce pétrolier-là d'être également impliqué dans le survol.
Donc il y a eu une offensive hybride, entre guillemets, de la Russie. Et ce soir, on voit que ça ne marche pas. En tout cas, politiquement, le signal est clair. On ne se laisse pas faire.
Et puis, il y a, là aussi, on va essayer de monter encore d'un cran. Pourquoi c'est le pétrole qui est visé? Alors d'abord, les Ukrainiens le font à leur façon. Parce que je fais remarquer que depuis plus d'un an maintenant, ils font des frappes dans la profondeur où ils ont, mais vraiment, terriblement endommagé les capacités de raffinerie russes. Ça avait commencé par des frappes à 800. Oui, mais un tiers, c'est beaucoup.
Oui.
C'est quand même. Enfin, il faut le faire pour un petit pays comme ça. Ils sont allés se taper les.
Aidés par les Américains
et j'allais y venir justement.
Ah, faut être honnête.
Mais justement, on est honnête. C'est bien pour ça qu'on allait y venir. C'est que non, c'est pas les Ukrainiens. C'est avec l'aide occidentale. Et donc, vous voyez bien que donc il y a les Ukrainiens qui font ça de manière militaire. Il y a une demande très forte de la part de Trump. Depuis le départ, y compris face à l'Europe, puisqu'il y a quand même des pays européens, dont d'ailleurs des pays assez proches de lui, les Hongrois, etc., qui continuent d'acheter du pétrole parce qu'ils en ont besoin, d'où ces exemptions sur l'embargo qui avait été donné pour du gaz et du pétrole européen que Donald Trump demande de resserrer. Et le message subliminal que donne... Parce que vous voyez bien que, en fait, Emmanuel Macron essaye en permanence de re-ramener Donald Trump dans le camp des Européens et des Occidentaux depuis le petit risque de l'Alaska. Et donc, là aussi, le message sur le pétrole est aussi à destination des Américains pour dire effectivement, tous ensemble, travaillons sur cet élément clé qui est un levier, non pas militaire. En fait, la grosse différence, quand Poutine dit ils veulent nous infliger une défaite stratégique, c'est même pas le sujet. Parce que là-dessus, là, c'est ce que rêve une partie des pays européens, une partie de l'Ukraine, mais les États-Unis et même une grande partie des Européens sont pas pour infliger une défaite stratégique à la Russie et que la Russie s'effondre et qu'on sache pas ce que ce soit. Ce que veulent les Européens, c'est que le coût de la guerre soit insupportable à terme et que Poutine revienne à des négociations. C'est ça le véritable objectif. Pour dire les choses franchement, c'est pas la confrontation. Sauf que si on continue à le laisser faire, il y aura pas. Donc on est en train de lui dire, tape sur les doigts à chaque fois que maintenant, ça va. On va, voilà. Donc c'est
et,
ça.
Et on a les moyens de le faire parce que, pardon, alors, lieutenant-colonel Arbacier, il y a une réunion qui aura lieu visiblement proposée par Emmanuel Macron dans les prochains jours, qui réunira les chefs d'état-major européens pour penser à une action commune pour faire face à ce genre de situation. Ça veut dire quoi, bâtir des actions communes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est intercepter, donc, tous les bateaux qui nous paraîtront suspects dans les prochains jours?
Chefs d'état-major ou une marine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une déclaration du chef d'état-major estonien qui a dit que si on lui avait donné l'ordre d'abattre les MiG, il l'aurait pas fait. Donc ça, c'est intéressant. C'est à vérifier. J'ai vu ça. Donc en réalité, il faut faire très attention. La Russie est une puissance nucléaire. On joue à la guerre sans la faire. On aide les Ukrainiens à faire la guerre, ça c'est vrai. Et une partie des succès ukrainiens sont dus au soutien des Américains et des Européens. Maintenant, si on veut faire la guerre à la Russie, il y a déjà des Russes qui ont dit, bah, allez-y, hein, on y va. Combien vous avez de munitions, de canons, combien de divisions? La France, voilà. Si on veut faire la guerre à la Russie, à la limite, c'est le piège. C'est le fameux piège de Thucydide, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut garder son sang-froid.
Je vous sens un peu inquiet, lieutenant-colonel. En fait, vous avez un discours. On a l'impression que pour vous, on voit un petit peu trop loin.
On a le droit de l'être face à une puissance nucléaire qui est la première puissance militaire européenne.
Mais nous aussi, on est nucléaire, il faut arrêter.
On est nucléaire.
Mais oui, mais on l'est. Donc, il faut arrêter toujours d'avoir.
Mais on a peur de la Russie, en fait.
Il faut arrêter de s'auto-flageller et de penser qu'on est capable de.
Il s'agit pas de s'auto-flageller, il s'agit d'être réaliste.
Excusez-moi, mon colonel, mais jusqu'à preuve du contraire, d'abord, on n'a pas agressé la Russie. À aucun moment. On n'est pas allé les faire chier sur leur territoire, on n'est pas allé les embêter avec des attaques machin. Eux le font.
Absolument.
Donc il y a juste un moment.
Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut, avant d'abattre un avion russe, il faut savoir ce qu'on fait.
On a dit qu'on allait abattre un avion russe sans savoir ce qu'on faisait. Ce qu'on dit, c'est qu'ils arrêtent. Enfin, là, on n'est pas sur la question de l'Ukraine. On est sur la question de la défense de nos frontières et de nos intérêts. Donc, oui, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose.
Non, la défense de nos frontières. Le porte-avions menaçait nos frontières.
Non, mais justement,
c'est intéressant ce que vous dites. Alors, pardon, qu'on comprenne bien ce que vous êtes en train de dire.
Mais je vais expliquer.
Vous êtes en train de dire qu'on va trop loin, qu'on n'aurait pas dû intervenir.
Je dis que tout est mesuré. Il faut faire les choses. Il faut pas s'agiter autour d'un plateau télé. Il faut faire attention avec la guerre. On est dans une logique diplomatique. Ce que je trouve depuis le début, pas anormal, mais on est sur deux langages différents. Quand on fait la guerre, on fait la guerre. À la guerre, il y a un vainqueur et un vaincu. Et on veut amener la Russie avec des mesures économiques à la table des négociations. Ben, on a le temps encore.
Oui, mais bien sûr, on va prendre notre temps, c'est pas le problème.
On a 50%
du PIB mondial.
Pendant ce temps-là, il faut éviter l'incident qui va donner.
Et pour éviter l'incident.
Attendez, pas tous en même temps.
Il faut qu'ils arrêtent de faire voler des avions chez nous. Ça, c'est pas très compliqué.
Il y a qu'à Foucault, on peut dire.
C'est là qu'il y a un désaccord. C'est que, on ne dit pas il y a qu'à Foucault. La preuve, c'est que quand on va organiser à l'initiative du chef d'état-major français et du chef d'état-major britannique, la réunion de nos partenaires européens, c'est justement pour éviter les imbécilités qui consisteraient à dire on va faire une ligne.
Qui commande en Europe? Qui est le chef d'état-major qui commande en Europe? Personne. Alors, qui commande l'OTAN? C'est SACUR. Et ce sont les Américains.
C'est pour ça qu'on la première réunion qui a eu lieu, c'est donc bien pour ça que la première réunion qui a eu lieu sur les règles d'engagement. Mmh. Puisque les règles d'engagement, avec ce que vous savez, les restrictions de chacun des pays, qui s'appellent les caveats, ont été bien étudiées pour justement pouvoir répondre à ça. Et c'est pour ça.
Mais ça, c'est dans le cadre de l'OTAN plus que dans le cadre de l'UE.
Mais c'est dans le cadre de l'OTAN. Ouais. Mais c'est le pilier européen dans le cadre de l'OTAN. Et donc, ce qui est discuté en ce moment, justement, on en discutait avec Ulysse tout à l'heure, c'est que il y a un certain nombre de pays, particulièrement par exemple les pays baltes, etc., et la Commission européenne, qui voudraient faire une sorte de ligne Maginot de drones. Ce que les Français, les Britanniques, les Allemands et un certain nombre d'autres pays pensent être totalement un peu ridicule. Pourquoi ? Parce qu'une ligne Maginot, justement, ça se contourne, ce que vous expliquiez tout à l'heure, très justement. Et pour éviter ce contournement, nous, ce qu'on préfère réavoir, et c'est ce qu'on est en train de discuter, c'est pour ça qu'il va y avoir cette réunion des chefs d'état-major, c'est quelles sont les capacités militaires pratiques qui permettent d'aller porter ce qu'on a fait en déployant des patrouilles de 3 rafales lorsqu'il y a une menace concrète sur la Pologne, c'est la projection de 35 hommes avec un hélicoptère pour pouvoir balayer.
Mais ça, d'accord, sur les mesures de sauvegarde.
Ben oui, mais c'est vachement important, les mesures de sauvegarde.
Donc
c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place.
Il n'y a pas à discuter autour de ça.
Ah ben si, il y a à discuter parce qu'il y a la Fourth Generation, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent ce qu'on va mettre. Et il faut qu'ils disent quelles sont les règles d'engagement.
Qu'est-ce qu'ils mettent?
Exactement. Et ce qu'on va mettre et ce qu'on peut enlever. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de fixe. Parce que sinon, les Russes auraient gagné de nous imposer de mettre des choses en permanence qui vont nous coûter très cher et qui vont être très lourdes. Alors que notre idée, c'est justement de pouvoir répondre au coup par coup avec des choses assez mobiles et très efficaces en fonction de la menace. Ouais. Et c'est bien ça que nos états-majors sont en train de discuter. Mais pour ça, il faut être un peu décomplexé.
En tout cas,
on n'a pas peur de ça du tout.
Intéressant de sentir votre réticence. En fait, vous vous dites que je comprenne bien, vous vous dites on n'aurait pas dû intervenir donc
non,
sur ce bateau.
Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire que on parle, pour l'instant, on n'a pas fait de piraterie, on a fait de la police. Seulement, si on garde le bateau, ce sera de la piraterie. comme les Anglais ont gardé l'Altmark.
Et on va faire quoi de ce bateau alors?
Ben, ça va dépendre des juges.
L'enquête est en cours. Le procureur de Brest travaille et effectivement, il va devoir dire d'abord qu'est-ce qu'il y avait dans ce bateau. Alors ne nous emballons pas, On fait une enquête. On respecte le droit maritime. On a le droit. Chaque pays a le droit de faire une demande de visite et en général, elle est acceptée. Il y en a quasiment toutes les semaines, même au large des côtes françaises. Dans le golfe de Somalie ou le golfe de Guinée, il y a des interventions avec des commandos militaires qui interceptent les bateaux. Absolument. On n'en est pas là. Mais là, l'enquête du procureur va devoir déterminer, effectivement, s'il y avait des traces de drones, probablement pas d'ailleurs, mais si le bateau avait des équipements électroniques pour du brouillage, etc. Donc, quand l'enquête sera terminée, on pourra dire ce qu'on fait avec le bateau et avec le capitaine, et on verra ce qu'on fait avec la cargaison.
Le capitaine, chinois, jugé en février prochain...
Alors, il est détenu. Son second ne l'est plus, il est libre. Le capitaine chinois va être jugé. Est-ce qu'il sera en détention d'ici le mois de février? Probablement, mais on verra. Et là, il encourt une peine de un an de prison et 150 000 euros parce qu'il a refusé d'obéir aux ordres. Et c'est pour ça qu'il y a eu raisonnement.
Enquête, sur ce que contenait ce pétrolier. Et une fois qu'on aura déterminé tout ça... Quelles sont les différentes options
La cargaison, c'est l'essentiel parce que finalement, le viol de l'embargo par un cargo venu de Moscou, c'est ça qui peut être reproché. Mais je voudrais juste une chose sur l'inquiétude. Vous avez mis le doigt là, parce que le lieutenant-colonel, finalement, nous dit la réussite d'une puissance nucléaire, je suis inquiet. On est inquiet depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Attendez, le retour de la guerre en Europe, c'est une réalité. Et il est normal que les états-majors soient préoccupés et que les Français soient inquiets.
Oui, mais vous venez de dire aussi, Ulysse, ce soir, on a franchi un cap
parce qu'il y a un moment où il faut effectivement dire ça suffit. Et le fait que le président français réunisse les chefs d'état-major de tous ces pays européens, c'est une forme d'unité face à l'adversité qui nous menace. Lorsqu'il réunit la coalition des volontaires, vous savez, au sud de Paris, dans l'ouest de Paris, au ministère français des armées, il y a maintenant un quartier général de la coalition des volontaires. Donc, les Européens se sont organisés et ils planifient. Mmh. C'est le rôle des militaires. Ça ne veut pas dire que la guerre aura lieu demain, mais il est... Après, si on ne fait rien, on nous accuse de naïveté. Eh bien, le temps de la naïveté est terminé.
Alors, j'aimerais qu'on écoute à nouveau Vladimir Poutine ce soir, qui menace de prendre des mesures, de répondre à une militarisation donc, de l'Europe. On écoute le chef du Kremlin.
Nous observons la militarisation de l'Europe qui s'accélère. S'agit-il de simples déclarations ou est-ce nécessaire de prendre des mesures en réponse? Je pense que personne ne doute du fait que les mesures de la part de la Russie ne se feront pas attendre et que notre réaction sera très persuasive.
C'est pas la première fois qu'il nous menace, Adina Revol, mais quand même, il joue pas un peu sur nos peurs, sur nos inquiétudes, justement, Vladimir Poutine?
Mais oui, parce qu'en fait, la force de notre union, c'est notre union, mais aussi c'est notre plus grande faiblesse, en fait, parce que dans nos sociétés, ils cherchent à nous faire peur. Et moi, je voulais rendre hommage à un peuple qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui a résisté ce week-end à la plus grosse invasion démocratique, c'est le peuple moldave. Parce que Vladimir Poutine a essayé de mettre un gouvernement satellite à qui Chisinau, il a échoué, il a investi 350 millions d'euros et il a échoué. Et les Moldaves n'ont pas eu peur. Ils ont joué contre Vladimir Poutine et ils ont gagné. Et je pense qu'on doit prendre d'une certaine façon modèle sur le peuple moldave qui a été courageux et qui s'est rendu aux urnes. Et donc, ils n'ont pas peur de Vladimir Poutine. Ils savent ce que c'est l'autocratie et le retour vers le passé. Pourquoi personne ne veut le retour vers l'URSS? Parce que c'est une autocratie. Et il faut avoir en tête nos valeurs. On est en état de droit. Tout à l'heure, vous mentionnez le fait que c'est le juge qui va prendre la décision. C'est une différence fondamentale. On respecte le droit international. Donc, quand Poutine parle de pilaterie, c'est une blague, en fait. Aujourd'hui, nous, on respecte le droit, les valeurs, et donc Vladimir Poutine veut nous intimider. Il ne faut pas tomber dans cette peur que Vladimir Poutine essaye de mettre dans nos sociétés.
Je vous vois sourire, Paul Gogo.
Il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas revenir sur la Moldavie parce que j'en reviens. Effectivement, c'est tout un sujet. Il y aurait plein de choses à dire, mais c'était effectivement une période très intéressante. Dans les propos de Vladimir Poutine, c'est du Vladimir Poutine tout craché. C'est passionnant, enfin passionnant, toujours très intéressant et un peu amusant de le lire parce que déjà il voit tout en miroir, il nous présente tout en miroir. Donc quand il nous parle de Napoléon, en fait lui, il pense impérialisme et en fait nous, on pense à l'impérialisme de Vladimir Poutine. En rappelant très rapidement qu'il avait comparé Emmanuel Macron à Pétain il y a quelques mois, donc il y a peut-être une amélioration, je sais pas. Derrière, il parle de piraterie. Bon, bah Didier François l'a expliqué, la piraterie, on peut aussi peut-être qualifier ce que la façon dont Vladimir Poutine fait naviguer ses navires de cette façon-là. Il parle de difficultés internes à la France. Ça, c'est un grand classique, toujours nous renvoyer vers nos contradictions qui parfois sont factuelles d'ailleurs, tout en rappelant que cette guerre en Ukraine, lui sert aussi à combattre l'usure du pouvoir dans son propre pays. Donc on peut lui retourner ça. Et moi, ma phrase préférée, c'est quand Vladimir Poutine explique que de toute façon, ils trouveront pas d'armes, de drones et tout ça dans le navire, parce qu'il sait très bien ce qu'il y a eu ou pas dans ce navire. Il sait très bien qu'il y a déjà plus rien du tout. Et ça, pour le coup, c'est une petite provocation qu'il nous envoie. Et c'est presque ce que je qualifierais de sens de l'humour de Vladimir Poutine.
C'est ça.
Il a un sens de l'humour, Vladimir Poutine.
Des fois, il nous fait rire, mais faut beaucoup de cynisme pour en rire.
En Russie, ça se dit. En Russie, on dit shootka.
C'est la Churchill qui disait que Staline était l'homme qui avait le plus grand sens de l'humour.
Qui a dit ça, pardon?
Churchill.
Ah, Churchill.
Ouais.
Qui n'était pas dépourvu de sens de l'humour.
Oui, dis donc.
Non, mais ce soir.
J'apprends quelque chose. Oui, Ulysse.
Juste un mot. Dans son discours ce soir, Poutine dit : je dénonce l'hystérie des élites européennes qui croient que la Russie va les envahir. Et il dit : calmez-vous et allez vous coucher tranquillement, il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est le discours qu'il tient. Le problème, c'est qu'il a annexé la Crimée en 2014, qu'il a envahi l'Ukraine en 2022, et que les Pays-Bas se demandent.
En tenant le même discours.
Pardon?
En tenant le même discours.
En tenant le même discours. Dormez tranquille, rassurez-vous. Mais non, justement, l'Europe ne veut plus dormir tranquille. Elle veut se protéger, assurer sa sécurité. Voilà. Alors, c'est pas facile, parce qu'on est 27.
Exactement.
Il y a beaucoup de tensions. Et la guerre hybride, elle marque des points, parfois, dans les opinions publiques.
Oui,
quand il y a des élections, on le voit en Moldavie. En Moldavie, d'ailleurs, le parti pro-européen a gagné, de justesse, mais il a gagné. Mais il y a eu également des campagnes de désinformation en France, dans les élections présidentielles françaises, aux États-Unis et ailleurs. Donc, on voit bien que c'est une stratégie assez dangereuse, qui peut fonctionner. D'où la nécessité de ne pas céder et de prévenir aussi les Français des risques qu'ils courent avec toutes ces campagnes de désinformation. Souvenez-vous par exemple, du hacking, de la piraterie d'hôpitaux français. On peut imaginer d'autres actions comme ça. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle forme.
Donc, quand il parle de réponse, ce sera plutôt ce genre de réponse-là.
Voilà, parce qu'il ne va pas attaquer demain la France,
non.
Mais il va continuer cette bataille de la guerre hybride, de la désinformation.
Il y a des élections ce week-end en République tchèque. C'est essentiel parce que les Tchèques vont élire leur premier ministre qui va siéger au Conseil européen et qui va représenter leur pays, leurs intérêts dans le cadre de l'Europe. Et c'est essentiel puisque l'armée des bots du Kremlin est très active sur le TikTok tchèque.
J'aimerais qu'on réécoute quand même Vladimir Poutine ce soir. Il accuse la France de piraterie après l'interception de ce pétrolier. On l'écoute.
C'est de la piraterie. Oui, je suis au courant de cette affaire. Le pétrolier a été saisi dans des eaux neutres sans aucune justification. Et il cherchait apparemment une cargaison militaire, peut-être des drones ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de ce type là-bas. Et il n'y a jamais rien eu et il ne peut y avoir quoi que ce soit.
Ulysse, vous le rappelez, on est 27, mais on a l'impression que c'est la France qui est très souvent visée. Pourquoi est-ce que la France est plus visée que les autres ?
Parce que, sans aucun doute, le président français est une forme de, je dirais, étant tête de pont, si j'ose dire. Il a pris le devant vis-à-vis de Poutine, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a un nouveau chancelier allemand qui est assez ferme également, qui a dit lui aussi que si les drones russes ou les avions russes pénétraient dans l'espace aérien allemand, eh bien, il faudrait les abattre. Les Polonais disent la même chose, c'est-à-dire que il y a cette volonté d'instaurer un face-à-face de la part de Poutine à l'égard de Macron. Quand il dit Napoléon, pourquoi ? Parce que Napoléon, pour les Russes, a perdu la bataille de Borodino et donc il pense que Macron va perdre la bataille de Russie d'aujourd'hui. Mais en réalité, Poutine se trompe. Parce que les Européens, même s'ils ont du mal à s'unir, lorsqu'ils sont unis, ils le sont vraiment. Et là, ils ont démontré au sommet de Copenhague, avec la réunion des États-majors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les Européens travaillent ensemble à assurer une meilleure sécurité du continent. C'est pas facile, ça coûte cher, ça prendra du temps, et c'est vrai qu'on n'était pas prêts. Et les drones, si vous voulez, c'est une forme de réveil aussi, un réveil. Parce que qui s'attendait à ce qu'on envoie des drones arriver au Danemark, etc., en Pologne, en Roumanie. Donc, d'une certaine manière, on peut dire merci à Poutine. Vous avez réveillé l'Europe Et effectivement, l'Europe maintenant doit rester éveillée et sur ses gardes.
Merci beaucoup à tous les cinq. L'enquête est donc en cours concernant ce pétrolier. Et on verra ensuite ce que décide de faire la France avec ce pétrolier. Merci à tous.